Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Cette semaine est très politique, donc forcément très réseaux sociaux. Et pour vous permettre de ne pas rester sous influence, Juliette Briens et moi avons décidé de nous adjoindre les services d'un esprit aiguisé, très présent lui aussi sur les réseaux sociaux, mais très présent également à la télévision, qui décrypte l'actualité dans l'heure des pros chaque semaine, le philosophe Jean-Loup Bonamy. Jean-Loup Bonamy, soyez le bienvenu dans Politique sous influence.
Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité, même si je ne suis presque pas présent sur les réseaux sociaux.
On sent un soutien de l'émission.
Hein. Voilà, mais cela ne m'empêchera pas de les commenter.
On va tout de suite annoncer le programme. Cette semaine, on va parler de la nouvelle assemblée des nouveaux députés et cette fournier de nuptiens, et notamment Rachel Garrido et Alexis Corbière. Vous allez voir que ça a beaucoup buzzé pour eux sur les réseaux cette semaine. Cette semaine, nous sommes une semaine après les législatives et aussi une semaine après le bac. Un bac 2022 qui a fait l'honneur à la romancière Sylvie Germain d'être de voir un extrait de son roman utilisé comme sujet, honneur dont elle se serait bien passée, on va voir ça. Cette semaine, nous allons aussi vous parler d'écologie. Alors l'écologie, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une nouvelle religion? Les réseaux sociaux sont partagés et pour les départager, on a invité le professeur Yves Roucaud qui a des idées très arrêté sur le sujet et très hétérodoxe, vous allez voir. Juliette, je réalise qu'Yves Roucaud est lui aussi agrégé de philosophie. Jean-Loup Bonamy, vous êtes aussi agrégé de philosophie. Ça fait beaucoup d'agrégés de philosophie sur un même plateau.
Ah oui.
Donc je pense que là, on devrait réussir à décrypter les réseaux sociaux.
Oui, je pense.
Bon, alors c'est parti.
Bon, alors Sylvie Germain, elle n'a rien vu venir.
Non, vous trompez, on va faire le point sur Garrido Corbière. Ben oui, bien sûr.
Excusez-moi, patron.
Je vous en prie, vous êtes presque viré, pas tout à fait. Nous voulions revenir...
You're fired.
C'est ça. Nous voulions revenir avec vous sur cette rocambolesque affaire qui a vu un article du Point crucifier le couple Garrido-Corbière. Avant juste de faire machine arrière. Et en fait, tout s'est quasiment joué sur les réseaux sociaux, c'est ça? Et en même temps, les réseaux sociaux sont au cœur de la polémique.
Oui. Tout à fait.
Expliquez-nous.
Et l'hebdomadaire Le Point, ça y est, il a rétro-pédalé. Hein, c'était jeudi, après avoir publié cet article qui affirmait que le couple de députés LFI, donc Rachel Garrido et Alexis Corbière, exploitaient une femme de ménage sans papier. Donc vous imaginez le tollé, l'immense tollé que ça a créé tout de suite sur les réseaux sociaux. Pas bizarrement sur les médias mainstream, on peut imaginer sur les chaînes d'infos qui n'en ont pas parlé parce qu'ils ont eu le temps, eux, de venir voir les choses. Mais sur les réseaux sociaux, on parle de dizaines de milliers de tweets en quelques heures. Garrido en top tendance. L'article a été très rapidement...
Il y a eu un emballement.
Bien sûr, emballement total. L'article a été rapidement repris par de nombreux médias qui estimaient, j'imagine, comme tout le monde, comme nous tous, que la crédibilité du Point était suffisante.
Alors c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'arrêter dans un premier temps. Est-ce que c'est parce que c'était un média...
Bah oui, pour faire confiance.
Traditionnel.
Tout à fait.
Estampillé vérité vraie.
Alors,
informations vérifiées.
Bien sûr, on voit sur les réseaux sociaux que la crédibilité de la presse en général est déjà mise à mal. Les gens, justement, se reportent sur les réseaux sociaux.
Mais en
pour
général,
essayer
c'est
de...
ça. Ils
ont l'impression que la vraie...
davantage
voilà.
que les médias qui
Tout
sont considérés comme étant aux ordres, etc.
Ils ont l'impression que la vérité se trouve sur les réseaux sociaux et que les médias leur mentent. Là, ça ne va pas améliorer les choses. En tout cas, les penseurs, toute la classe médiatique et politique, elles faisaient confiance à la crédibilité du Point.
Parce que le Point, c'est
ce journaliste,
une
Aziz Zemmouri. Et puis finalement, il s'avère que tout est faux. Ça a commencé par Rachel Garrido et Alexis Corbière qui ont posté sur les réseaux sociaux un démenti ultra ferme. Et c'est là que Aziz Zemmouri, sur les réseaux sociaux, là aussi sur son compte Twitter, a publié ses fameuses captures d'écran. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le premier travail d'enquête, celui qui a même beaucoup compté, c'est les internautes qui l'ont fait. Parce qu'en fait, ils ont analysé ces captures d'écran au crible. Ils les ont zoomées, surzoomées. Ils les ont fait passer dans les logiciels de reconnaissance, de fake, d'images
trafiquées. Ils ont fait de l'open source intelligence.
Mais tout à fait, ils ont fait exactement. On en a parlé la semaine dernière dans l'émission, c'est marrant. Et ils ont tout de suite compris que ces captures d'écran étaient louches.
En fait, vous êtes en train de nous dire que c'est cette histoire. Si on récapitule, il y a un double côté arroseur-arrosé. D'abord parce qu'à l'origine, c'était quand même trop beau pour être vrai. C'est-à-dire le couple Garrido-Corbière qui cesse de dénoncer la situation intenable des sans-papiers, qui aurait eu à domicile des sans-papiers à qui ils auraient mené la vie dure.
Mais justement,
donc là, il y aurait un côté arroseur-arrosé. Mais en plus, les médias qui ne cesse de critiquer la légèreté des réseaux sociaux, ont été corrigés d'une certaine façon par les réseaux sociaux.
C'est ça que là, pour le coup, oui, c'est moi, je pense que ça ne va pas arranger l'image que se font les jeunes de la presse, puisque effectivement,
les moins jeunes d'ailleurs.
La première enquête, elle a été faite directement sur les réseaux sociaux par les internautes. Et c'est justement parce que vous parliez de cette histoire. Oui, c'est justement parce que cette histoire est tellement énorme que on n'a pas pu imaginer que le Point n'avait pas fait les vérifications nécessaires. Donc c'est pour ça que tout le monde s'est très vite
Est-ce
emballé.
Est-ce qu'à votre avis, Jean-Loup Bonamy, on a un phénomène de telle accélération, de telle pression dans cet univers numérique, d'ailleurs, il faut dire, où les réseaux sont omniprésents, que finalement la presse classique, qui normalement devrait avoir un temps médiatique et plus raisonné et raisonnable que le temps des réseaux sociaux, court après les réseaux sociaux. Et c'est ça qui aurait poussé à la faute finalement le Point. Ça vous paraît être une interprétation, une surinterprétation ?
Alors, je reconnais bien là l'explication de notre ami Guillaume qui, justement, explique souvent et avec brio... explique souvent avec brio les travers de notre époque et sait particulièrement bien saisir notre temps, notre époque. Et moi, j'aurais une interprétation peut-être légèrement différente. Je pense que dans la presse classique, ces erreurs, ces manipulations, ces ratés ont toujours existé. Il y en avait déjà il y a un siècle. Souvenez-vous, au moment du Front Populaire, ce ministre Salin Gros qui était accusé, qui était accusé d'avoir trahi et déserté au moment de la Première Guerre mondiale, alors que c'était totalement faux, et qui a fini par se suicider. Donc je pense que ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau.
Les erreurs de la presse, les scandales de la presse.
L'erreur est humaine, et donc les journalistes étant des êtres humains, comme tout le monde, ils peuvent se tromper, y compris de manière énorme.
Mais vous n'êtes pas
sidérante.
D'accord, Jean-Loup Bonamy, que là, les réseaux sociaux donnent une amplification.
Et donc, je pense que le phénomène a toujours existé, qu'il n'est pas nouveau, qu'il n'est pas propre à notre époque. Mais après, il y a deux points à souligner. Je pense que, comme vous venez de le dire, les réseaux sociaux accélèrent et amplifient un phénomène, parce que la presse, qui a pu toujours commettre des erreurs, comme les réseaux sociaux d'ailleurs, eh bien, elle sent qu'elle est quand même en difficulté, que son modèle intellectuel, économique est en difficulté face aux réseaux sociaux. Donc, elle cherche à les imiter, ce qui, des fois, a des avantages et des fois, des inconvénients. Donc, là, on voit en effet un effet d'accélération sur les inconvénients. Et deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que des internautes ont corrigé, justement, c'est eux qui ont souligné en voyant en effet que c'est en faisant eux-mêmes le travail, en fait, en voyant que ces captures d'écran, d'ailleurs, elles étaient très manifestement louches. Moi-même, quand je les ai vues, alors j'ai pas du tout pensé qu'il s'agissait d'un montage ou de quelque chose de faux.
Vous êtes très, très jeune, donc c'est la génération Y, donc vous avez
Mais
l'œil,
je trouvais
fait.
Ça très bizarre que la photographie de Raquel Garrido apparaissent sur l'échange de SMS. Ça aurait voulu dire que, vu que ce n'était pas un échange WhatsApp, ça aurait
fait.
Voulu dire que la femme
aurait... C'est surtout la photo qui a
très
interpellé
bizarre.
Les
Et la photo qui était censée ajouter un élément de crédibilité en disant « Voyez, c'est bien sa photo », en fait, c'était tellement bizarre que ça a mis le doute.
Tout à fait.
Bon, moi, je pense c'était que trop beau pour être vrai.
Alors voilà, et donc il y a eu tout ce travail de vérification que je trouve est assez intéressant.
Alors à noter que Étienne Jarnel, directeur du Point, a expliqué que des vérifications supplémentaires avaient révélé des manquements à la prudence.
Bel euphémisme, j'aime ce sens de là.
Il s'est excusé auprès de Rachel Garrido et d'Alexis Corbière et des lecteurs du Point. Et Rachel Garrido a répondu par un tweet « Dont acte, je demande le licenciement immédiat d'Aziz Zemmoury ». Je n'en resterai pas là. Je ne pardonne pas qu'ils soient qu'ils s'en soient pris à mes enfants.
Je croyais qu'ils étaient contre les licenciements et le chômage.
Peut-être donc, pas pour faute grave quand même. Peut-être pas pour faute
grave. Pas pour vengeance.
Mais
la vengeance n'est pas encore une catégorie dans le code du travail.
Et hier soir, on a eu les excuses également du journaliste Aziz Zemmoury qui a supprimé d'ailleurs son compte Twitter. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé. Manifestement, je ne pense pas personnellement qu'Aziz Zemmoury a pu lui-même créer des fausses preuves, ce qui voudrait dire qu'il a été, et d'ailleurs il le dit, c'est ce qu'il dit, manipulé. Mais alors par qui ? À qui profite le crime ? Je vais quand même juste vous raconter ce petit bug qui a eu lieu encore une fois sur les réseaux sociaux hier. Jean-Christophe Lagarde, qui était l'opposant de Rachel Garrido pendant les législatives.
Oui, j'allais vous dire, ça me rappelle quelque chose, c'est son meilleur ennemi.
Quelqu'un s'est demandé si c'était pas un peu trompé, s'il n'avait pas confondu entre ses messages privés et ses tweets. Il a tweeté en répondant à Étienne Jernel, donc le directeur du Point. « Oui, j'ai vu, je ne comprends pas bien et je ne sais pas la fiabilité de ceux qui me donnent ces infos. » En fait, ils m'ont alerté la semaine dernière que l'article allait sortir. Puis le journaliste a dit que ça avait été bloqué en haut. Est-ce qu'on peut en parler tout à l'heure ?
Le « est-ce qu'on peut en parler tout à l'heure » laisse penser qu'il s'agirait en fait à la base d'un message à vocation privée. C'est, qui aurait été tweeté par erreur.
Au moins que, on peut dire en tout cas que c'est très énigmatique.
Mais
comme
on est
tweet.
Au cœur de phénomènes effectivement qu'on voit, c'est-à-dire rupture entre la correspondance privée, le public.
Ah oui, bien sûr. Alors là, si on commence à s'emmêler les choses.
Jean-Loup va nous dire que c'est pas nouveau, c'est vrai, c'est pas nouveau. Et indiscutablement. Mais cette capacité du numérique à tout révéler sur la place publique en quelques secondes.
Guillaume, moi je pense qu'en tout cas, il y a une manipulation, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que l'article était destiné à sortir avant les législatives. C'est ça qui aurait dû se passer. Et je pense que, je ne sais pas ce qui s'est passé,
l'article est sorti en retard. À un moment, il ne servait plus à rien pour ceux
Et heureusement, parce que s'il était sorti avant, évidemment, ça aurait eu un lourd impact sur les scrutins. Et là, c'était différent, on aurait dû recommencer.
Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas avoir une lecture univoque des réseaux. On ne peut pas dire les réseaux ne font que ci ou que ça. Finalement, les réseaux ont poussé à la faute, probablement.
Non.
Mais les réseaux ont rectifié leur propre erreur.
Peut-être pas poussé à la faute. C'est simplement que sur les réseaux, on réagit à chaud, là tout de suite. Et après, c'est indélébile. On est obligé de supprimer son tweet. Alors que dans le monde sans réseau.
Mais les réseaux qui ont crucifié le couple Garrido-Corbière 48 heures après ont sauvé. Le mal gît le remède.
Voilà, mais ce n'est pas les réseaux, ce n'est pas les mêmes personnes sur les réseaux.
Bien sûr. Bon, les réseaux peuvent salir donc et laver l'honneur d'un couple en moins de 48 heures. Les réseaux font une vérité lundi, une erreur mardi. Mais ils peuvent aussi déverser des torrents de boue sur une romancière car elle écrit trop bien. C'est la mésaventure qui est arrivée à Sylvie Germain. Vous allez voir pourquoi, comment, tout de suite après. Restez sur Sud Radio.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briasse.
Alors, pour un romancier, même pour une romancière, voir son texte utilisé comme support du bac, ça devrait être une consécration, un peu comme être publié dans La Gare des Michards ou finir à l'Académie française. Mais vous, Juliette, vous nous dites que dans le monde magique des réseaux sociaux, c'est réversible en fait.
La Gare des Michards, mais quel boomer.
On se refait pas.
Non, vraiment, Sylvie Germain, cette fois-ci, elle n'a rien vu venir. D'abord, alors, elle a été très touchée. Comme vous le dites, Guillaume, une consécration, que l'extrait de son roman « Jour de colère » qui avait été publié en 1989 aux éditions Gallimard a été choisi pour figurer parmi les épreuves du
français.
C'est une
très grande romancière,
hein,
Sylvie Germain. D'innombrables textes, d'innombrables prix littéraires, très belle plume.
Quelle ne fut pas sa surprise et son effroi lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée à une vague, mais une vague torrentielle d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. À peine l'épreuve terminée, des centaines de jeunes candidats ont trouvé le texte trop compliqué pour leur demi-cerveau et ont jugé nécessaire de cyber-harceler Sylvie Germain avec une violence inouïe. Je vous ai quand même fait un petit florilège, petits exemples.
On va censurer éventuellement, je ferai des bips.
Sylvie Germain, ça fait quoi de niquer nos dossiers ?
Bip !
Non mais parce que Tarzan et compagnie, c'était marrant deux secondes, mais là c'est trop. Sylvie
ça
Germain,
va, encore.
Va te faire foutre avec tes textes de merde.
Ça va moins.
Est-ce que quelqu'un peut leak l'adresse de Sylvie Germain, SVP ? On va organiser une descente.
Ça va beaucoup moins.
Sylvie Germain, si je te trouve, je plaisante même pas avec toi. Le bac de français, c'est vraiment la plus grosse douille de l'histoire, frère. Sylvie Germain qui t'a demandé d'écrire Tarzan, c'est la hesse, wesh, c'est trop cousine. Taras, Sylvie Germain, à vouloir nous faire cracher des rêves de Tarzan. Bon, voilà, vous l'avez compris.
La relève de Sylvie Germain est prête.
Le texte
ça,
était...
Ça, on peut le dire.
Tout à fait.
Il faut prévenir la NRF Gallimard, c'est prêt. Bon, Jean-Loup, mon ami, soyons sérieux un instant. Vous êtes prof en terminale, vous êtes même prof en terminale aussi techno, c'est un peu exceptionnel, mais vous faites les deux types de terminale, c'est assez rare. Est-ce que c'est vrai, finalement, qu'on ne peut plus faire confiance à une génération qui écoute du Joule ?
Non, moi je ne pense pas. Mon expérience en tant que professeur de lycée a été à la fois très inquiétante et très rassurante. Elle a été très inquiétante sur l'effondrement du niveau, l'absence totale de culture générale, historique ou scientifique, l'absence totale de maîtrise de la langue française.
Ça vous confirmez ?
Oui, je confirme.
Le niveau ne monte pas.
Quand vous lisez des copies, non, il s'est même effondré de manière abyssale. C'est-à-dire que quand vous lisez des copies d'élèves de terminale générale, je dis bien de terminale général, donc ceux qui sont censés être les meilleurs, bien souvent vous vous demandez dans quelle langue sont écrites ces copies, si c'est du kurde, de l'arménien, du géorgien, mais en tout cas certainement pas du français. Et là, ce que je souligne n'a pas de rapport avec l'immigration, parce que ça vaut aussi bien pour des élèves issus de l'immigration que pour des élèves qui ne sont pas
c'est
du tout...
C'est un problème d'alphabétisation.
Voilà, c'est un problème d'alphabétisation dont les élèves sont victimes. Donc ça, c'est tout
ils
à fait exact.
Ils écrivent, par exemple, dans les copies, ils écrivent en langage SMS, par exemple, dans vos copies
Oui, c'est-à-dire qu'il faut compter maintenant, en moyenne, entre une et deux fautes par ligne, que sur une classe de 30 élèves de terminale générale, à peu près zéro... savent écrire correctement le mot langage, qui est pourtant un mot basique, c'est-à-dire que tous mettent un U, G-U-A-G-E, ce qui normalement ferait langage.
Language. Il y a un voilà. prof sur les réseaux sociaux qui justement a fait passer l'épreuve de français et qui a dit que sur donc, cette même classe qui avait critiqué Sylvie Germain, il y avait quelqu'un, un élève qui avait écrit en haut de sa copie, déjà premier mot, baccalauréat.
Voilà.
Pour commencer. Parce qu'en plus, ce sont des fautes, vous dites une faute tous les deux lignes, mais c'est des fautes très graves, c'est des fautes qui marquent une totale incompréhension de ce qu'ils sont en train de dire.
Ah oui, de ce qu'ils sont en train d'écrire. Mais d'ailleurs, ils ont même des problèmes pour la lecture. Là, lire un texte à voix haute est compliqué, la lecture n'est pas du tout fluide, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent.
Donc ça, c'est ce qui m'a inquiété. C'est très important ce que vous dites, c'est que derrière 80% de classes d'âge au bac, on a un phénomène massif de désalphabétisation.
Bien sûr. Les élèves confondent EZ, ER et E accent. Enfin, ça, c'est. On peut parler de ça, mais on peut parler par exemple sur la culture historique. Si vous leur parlez de Louis XI et de Charlemagne, ils sont incapables de vous dire qui a régné avant l'autre.
Bien sûr,
des personnages qui ont 6 ou 8 siècles d'écart, ils n'ont aucun sens de la chronologie. Mais même en science, vous prenez ces fameux ceux qui avant étaient les terminales scientifiques.
Parce qu'on nous explique qu'ils n'ont plus cette culture générale, ils ne maîtrisent plus le langage, mais ils savent coder en Fortran.
Alors non,
en
fait. Ils ne savent absolument rien coder.
Ah oui.
Et si par exemple dans le domaine scientifique, vous prenez les fameux élèves de terminale générale, ou avant, il y a quelques années, les élèves de bac S qui faisaient en plus la spécialité SVT, ou maintenant les élèves de terminale générale qui font de la SVT, donc les meilleurs biologistes de leur génération, si je puis dire, vous leur demandez quand les dinosaures ont-ils disparu, ils sont absolument incapables de vous répondre et n'ont même aucune idée approximative de la chronologie. Les dinosaurs ont disparu il y a 66 millions d'années.
Oui,
certains vous diront.
La chronologie, c'est une chose avant
voilà.
l'autre.
Voilà. Certains nous diront que Charlemagne.
Il y a 2 milliards.
Il y a 2 milliards d'années. C'est le début du fascisme, la chronologie.
Oui, ah, oui, oui, oui.
Ils nous diront pas que Charlemagne est arrivé avant, quand même.
Eh bien, pourquoi pas.
Mais, parce qu'on peut choisir son genre, mais on ne peut pas choisir sa chronologie.
Voilà. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup inquiété. Mais ce qui me rassure beaucoup, c'est que globalement, j'ai trouvé des élèves qui étaient plutôt sympathiques dans l'ensemble, bien élevés. Qui n'étaient pas bêtes du tout et qui avaient soif d'apprendre. Ils ne savent rien, mais honnêtement, ce n'est pas de leur faute. Ils sont les victimes d'un système.
Non, mais
et eux,
ce que vous
ils
dites,
veulent
pardon,
apprendre et sont très réceptifs.
Ça me paraît essentiel. Il ne faut pas stigmatiser une génération, non pas parce qu'il faut être gentil, bienveillant, par construction, mais il ne faut pas stigmatiser une génération qui ne sait rien parce qu'on ne lui a rien
Voilà, parce qu'on
transmis.
Lui a rien appris et qui, elle, aimerait apprendre.
Et dans le comportement, parce que c'est ça qui est intéressant ici, le cyberharcèlement...
On sent du ressentiment. De la haine même.
Pas du tout. Oui, je me demande.
On sent que vous avez cyberharcelé des professeurs.
Pas du tout. Je me dis, est-ce que dans n'importe quelle génération, si à votre génération vous aviez eu les réseaux sociaux, est-ce que vous aussi vous auriez harcelé
Je peux répondre. Je pense que c'est notre grande différence philosophique avec Guillaume. Moi, je pense que ces phénomènes ont toujours existé et que les réseaux en sont juste l'accélérateur, voilà. le médium, le moyen, mais que ces phénomènes auraient pu avoir lieu à n'importe quelle autre époque et d'ailleurs ont toujours eu lieu. Vous savez, et ce n'est pas nouveau, ça fait 40 ou 50 ans que c'est le cas, quels sont les journalistes et les présentateurs télé les plus insultés, les plus menacés, les plus harcelés, et avant les réseaux, bah, par voie postale, hein, qui reçoivent des lettres de menaces, ce sont, et c'était déjà vrai il y a 40 ans, les présentateurs météo. C'est-à-dire que vous avez les présentateurs météo, bah, par exemple, vous avez des gens qui vous disent « Le mariage de ma fille a été gâché par la pluie, je vais vous faire la peau, vous c'est êtes vrai. Un salaud », et c'est des phénomènes très connus.
C'est pas normal, ça ?
En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui sont étudiés par les sociologues et par les psychologues, bah, voilà. Et parce qu'on incombe, et en fait, je pense que c'est un réflexe archaïque, anthropologique, très profond dans l'être humain.
On
qui
tue
remonte...
celui qui annonce la mauvaise
voilà,
nouvelle.
Exactement, qui remonte aux sociétés traditionnelles, besoin de trouver un coupable, et si possible, de préférence que le coupable, ce ne soit pas soi, ce soit l'autre, c'est exactement ce
le
qu'on voit
émissaire.
Avec Sylvie Germain. Voilà, c'est le bouc émissaire de René Girard. Donc, trouver un coupable, le bouc émissaire, et l'expression aussi de pulsion de vengeance, d'agressivité.
Donc, finalement, la seule différence entre cette génération et la vôtre, oui. c'est que vous auriez sûrement compris le texte, déjà.
Je ne suis déjà. Il y avait déjà une certaine baisse. J'ai passé le bac en 2006. Il y avait déjà une certaine baisse du niveau.
Et pour harceler Sylvie
Mais
Germain,
il aurait fallu
des lettres.
Il aurait fallu en fait que je me déplace jusqu'au bureau de poste, voilà. que j'achète un timbre. Ça m'aurait pris plus de temps et entre temps, ma colère serait passée probablement. C'est ça la différence. Alors que là, immédiat, Instagram.
Jean-Louis Bonamy, on est bien d'accord. La bêtise, la méchanceté ne sont pas récentes dans l'histoire de l'humanité, c'est sûr. Mais enfin, plus le niveau baisse et plus le ton monte. On pourrait dire. On peut faire tous les procès en inculture qu'on veut vis-à-vis de la jeune génération. On ne peut pas dire que les plus jeunes, en tout cas, se désintéressent de la planète. Au contraire, on a l'impression que c'est un sujet de préoccupation majeur pour toute une génération. Cette écologie est une science, est elle-même devenue une nouvelle religion. Pour en parler, on reçoit le professeur Yves Roucaud qui a des idées arrêtées sur le sujet et est très original. C'est tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Nous sommes de retour sur Politique sous influence et nous avons, avec Juliette Briens, la chance d'avoir deux agrégés pour le prix d'un.
Ah oui, là.
En fait, deux agrégés de philosophie. Yves Roucaud,
promo sur les agrégés.
Promo sur les agrégés. Après ce qu'on a entendu sur Sylvie Germain, peut-être que sont-ils en solde, les agrégés, je ne sais pas. Yves Roucaud, bonjour, bienvenue sur Politique sous influence. On vous présente parfois comme l'universitaire le plus diplômé de France. En tout cas, vous avez deux doctorats, vous êtes épistémologue, des philosophes, des spécialistes de sciences politiques, d'intelligence artificielle, de biotechnologie, de nanotechnologie, de relations internationales, de risques pays. Vous avez été membre de 5 cabinets ministériels et l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'obscurantisme vert. On n'en jette plus ou il y en a encore ?
Bon. La vie, c'est l'explosion un peu de sa créativité. C'est ça, là. Ce que Bergson disait, justement, on parlait juste avant que l'émission commence, c'est qu'en fait, on est de l'énergie créatrice. Le seul problème, c'est que dans le monde, on a tendance à bloquer cette énergie. Regardez les enfants, les gamins, ce que j'adore, regardez les enfants qui jouent dans les bacs à sable, qui créent ils sont créatifs. L'humanité, elle est créatrice naturellement. C'est ce que je démontre, d'ailleurs, y compris dans ce dernier livre. Moi, je dis, alors l'homme est homo creator.
On va attaquer votre sujet.
Le problème, c'est que nos virtualités...
sont bridées.
Elles sont bridées. Donc, moi, j'essaie de débrider les virtualités avec souvent beaucoup d'échecs, je dois
dire. Je ne sais pas, cher Yves Roucaud, si vous avez entendu le précédent sujet. On a parlé de Sylvie Germain, de la manière dont elle a été cyber-lynchée, on va dire, après l'extrait de son texte. D'ailleurs, elle a répondu de manière extrêmement élégante par une formidable tribune. Vous en pensez quoi ? Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que l'énergie, la créativité est bridée. Là, on l'a un peu débridée, notamment dans l'enseignement secondaire, en disant l'élève au cœur de la classe et il faut pas trop encombrer le cerveau de nos têtes blondes, laissons cours à la créativité et voilà ce qui se passe.
Oui, enfin je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont un peu contradictoires. Pour vraiment éviter toute confusion, il me semble que la créativité, c'est notre nature. C'est une nature qui est prouvée, puisque, et là encore une fois, mon livre répond justement aux obscurantistes, à la vague obscurantiste qui déferle dans nos démocraties occidentales et qui affaiblit notamment la France. Mon livre répond justement sur le fond, c'est-à-dire déjà en montrant qu'on a une triple créativité qui nous a permis de survivre, qui est une créativité vis-à-vis de l'environnement, qu'on humanise de plus en plus, vis-à-vis de notre propre corps, jusqu'à aller jusqu'aux gènes, par exemple, pour attaquer les maladies génétiques. Créativité dans nos relations interhumaines, c'est pour ça qu'on crée des civilisations. Ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Il n'y a aucune espèce vivante qui est dans cet ordre-là. Il y a une différence qualitative entre l'humanité
et les
autres vivants.
Donc, vous êtes toujours diplômé, vous n'allez pas me contredire. Les idées, elles ne naissent pas comme des champignons.
Non, bien entendu. Les idées...
Il faut apprendre avant d'être créatif.
Toute l'histoire de l'humanité, c'est ces tâtonnements, ces essais, ces erreurs, pour essayer... petit à petit, d'avancer, de progresser dans l'univers, pour sauver sa peau, j'ai envie de dire, d'abord, parce qu'il a fallu sauver notre peau, alors on en parlera peut-être tout
bien
à l'heure, à cause
des problèmes
notamment climatiques, pas seulement climatiques, et puis il faut aussi essayer d'améliorer notre vie au fur et à mesure, donc voilà, alors, vous voyez, on a un phénomène, j'ai envie de dire un épiphénomène à un moment donné. Vous avez des forces obscures qui travaillent la société contre cette créativité, justement. Par exemple, des forces islamistes, des forces néo-fascistes, des forces obscurantistes de ce type vert, rouge-vert, moi j'appelle ça les petits bonhommes verts, qui vont contre cette créativité, qui d'ailleurs...
À base de dogmes, vous assènez des dogmes.
Oui, c'est une pensée figée. Le problème de l'humanité, c'est qu'aussi souvent, elle crée des innovations, mais ensuite, elle se fixe, elle se fige, vous voyez. Et c'est pour ça que toute la lutte, toute l'histoire de l'humanité, j'explique ça dans un autre bouquin de manière très, mais beaucoup plus difficile à lire, celui-là est facile à lire, il est drôle, je pense, etc. Mais toute l'histoire de l'humanité, c'est la lutte de cet esprit créatif, de cette liberté créative, contre toutes les forces magico-religieuses, obscurantistes qui essayent de brimer, de briser cette créativité. Mais...
Alors on voulait vous inviter à la fois parce que la campagne présidentielle a fait la barre belle à l'écologie, c'est le grand programme, le grand horizon vert de M. Macron, mais aussi parce qu'on traverse une période de canicule au cours de laquelle les médias sont littéralement déchaînés pour nous parler des records de température. Réseaux sociaux se sont emballés aussi en France et partout dans la planète, pour nous expliquer que ça y est, cette fois, on était au bord de l'apocalypse climatique. Et vous, c'est pas du tout votre sentiment.
Ben oui, parce que si vous voulez, moi je suis désolé de le dire aussi crûment, moi je suis contre les climato-sceptiques. C'est-à-dire je suis contre tous ceux qui inventent un climat qui n'existe pas et qui refusent la réalité du climat.
Alors vous dites les climato-sceptiques, c'est l'autre.
Bien sûr, c'est un phénomène très très connu qu'on appelle de projection en psychanalyse, qui est un phénomène qui consiste à attribuer à l'autre ses propres turpitudes. La négation du climat est une constante chez tous ceux qui essayent de culpabiliser l'humanité sous prétexte qu'elle produit des industries, etc., etc. Toute la critique qui est faite par les climato-sceptiques réels, c'est-à-dire les obscurantistes, par exemple de la NUPES aujourd'hui, toutes ces critiques-là viennent du même refus de voir ce qu'est l'histoire du climat sur cette planète. C'est pour ça que moi, si vous voulez, je décris, c'est la première partie du livre, l'histoire du vrai climat de cette planète depuis 4,45 milliards d'années.
Ici, on est quand
je
même
la
sur...
décris dans le détail, parce que les températures depuis 4,55 milliards d'années hors glaciation, ont systématiquement été plus élevées qu'aujourd'hui. De 4,55 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, la moyenne était supérieure à 83 degrés centigrades. Je rappelle qu'elle fait 15 degrés centigrades aujourd'hui. De 2,5 milliards d'années, allez, on va aller vite, jusqu'à l'arrivée des hominines, donc nos ancêtres, il y a donc 7 millions d'années, eh bien, de ces 2,7... Eh bien, la température, elle fluctue, parce que la Terre fluctue entre des glaciations monstrueuses, avec des exterminations monstrueuses dues à ces glaciations, et des réchauffements qui parfois sont aussi monstrueux. Il y a eu plus de 7 exterminations massives dans l'histoire de l'humanité.
Mais finalement, vous ne niez pas le réchauffement climatique. Vous dites tout simplement que...
Non. Le réchauffement climatique, je le remets dans son contexte, parce que je fais l'histoire de ce climat. Par exemple, vous parliez des dinosaures tout à l'heure, avant que j'arrive, enfin, juste quand j'arrivais, les dinosaures vivaient avec une moyenne de 30 degrés centigrades. Ils broutaient, pour ceux qui étaient végétariens, l'herbe au Groenland.
Il n'y avait pas d'herbe à l'époque.
Au Groenland, si.
L'apparition de l'herbe est postérieure à l'existence des dinosaures.
Depuis 460 millions d'années, avec la naissance des premiers crustacés, il y a sur la Terre de la végétation et des animaux.
Tout à fait. Voilà. Ils broutaient des végétaux, des fougères.
Des fougères, essentiellement.
L'herbe, c'est une façon rapide de parler, mais qui est assez juste sur le fond. Il s'agit bien, en effet. Donc, je reviens sur cette histoire-là.
Disons que nos auditeurs soient clairs. Donc, il y a une phase où la Terre se constitue et se stabilise. Au début,
ça, c'est la première phase.
C'est très, très chaud. Il n'y a aucune existence possible. Et puis ensuite, il y a la vie qui peut apparaître telle qu'on la connaît, et à la fin du cycle...
Les premières bactéries, etc.
À la fin du cycle, scientifique, il y a les hommes.
Avant, et à partir, avant, vers on commence à avoir des premiers éléments de ce qu'on pourrait appeler du vivant vers 3,7 milliards d'années, mais le développement vraiment du vivant tel qu'on l'entend nous globalement, c'est plutôt 461 millions d'années.
Donc c'est la dernière heure, minute de 24 heures.
Et là, si vous voulez, je peux vous donner, enfin je ne vais pas vous embêter, parce que émission, je me suis amusé pendant 10 minutes à donner toutes les températures avant l'arrivée des hominines. Les glaciations et les réchauffements sont un fait climatique parce que
tous les gens sérieux savent que la température sur Terre est montée et descendue très forte.
Depuis que les hominines sont arrivés, donc il y a 7 millions d'années, donc vous voyez qu'on a déjà fait 95% de l'histoire de la Terre, il faut savoir quand même que ces réchauffements et glaciations ont détruit 99,99% du vivant. Donc il faut bien comprendre un truc.
Les gens sérieux le savent. Mais en revanche, le sujet, c'est plutôt est-ce que l'activité humaine depuis la fin du 19e siècle est responsable d'un phénomène d'accélération.
Alors, donc, on a 15 degrés aujourd'hui. On a eu en moyenne 25-30 degrés avant les hominines, donc on peut pas dire que ça accélère le réchauffement. Je ne suis pas en train de nier des effets de l'activité humaine sur le climat. Je suis en train d'expliquer simplement que l'apocalypse qui nous est vendue est une illusion et que ce n'est pas seulement une illusion. C'est un cache-sexe pour essayer d'attaquer nos démocraties libérales et la puissance de ces démocraties aujourd'hui. Et ça, je le démontre. Alors, je vais en rester aux hominines, puisque le coupable qui arrive il y a 7 millions d'années. Il n'a pas de bol, le coupable, puisqu'il y a 6 millions d'années, un peu moins, 5,9, il y a un réchauffement monstrueux, et ils survivent, mais les températures montent à 29 degrés centigrades. Il n'y a pas de il y a pas d'industrie carbonée, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a que dalle.
Moyenne sur Terre, là, on a 17 degrés à peu près.
Je saute très très vite. Le genre homo naît. Le genre homo naît. Alors je précise que avant que le genre homo naisse, les australopithèques sont tous détruits, toutes les races dominines sont détruites, et il y a 22 espèces du genre homo qui apparaissent vers 2,8 millions d'années. Sur 22 espèces, 21 sont exterminées sur la planète, 21 sur 22.
Alors, la premier message, la nature n'est pas gentille.
Ah bah la nature, oui, la douce Gaïa, elle n'est pas sympa, non seulement pour les autres vivants, mais aussi pour nous. Il faut savoir que depuis 2,8 millions d'années, on a eu 17 glaciations et autant de réchauffements, dont 4, 5, 6, les avis divergent, glaciations absolument monstrueuses. Les humains...
Je rappelle qu'on pouvait aller à pied de Paris à Londres en passant par une banquise.
Vous pouvez y aller s'il n'y a pas de glaciation, parce que je vous raconte, par exemple, la dernière glaciation, il y avait 1500 mètres au-dessus de ce qui est aujourd'hui New York, 2000 mètres de glace au-dessus de ce qui est aujourd'hui les grandes villes du Canada. Donc si vous voulez, et à Londres aussi. Donc si vous voulez, on pouvait circuler. Pour ceux qui pouvaient circuler, c'est pour ça d'ailleurs que l'homme du Néandertal a complètement été détruit, parce qu'il n'avait pas de bol, il était plus développé probablement que ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort à mon avis, l'homo sapiens, mais il avait un gros problème, c'est qu'il vivait dans l'hémisphère nord. Donc il a été liquidé. La dernière glaciation, donc avant la dernière glaciation, vous voyez, les homo sapiens, nos ancêtres, sont là avant la dernière glaciation. La moyenne de température est tellement plus élevée qu'aujourd'hui qu'on a des hippopotames qui se baignent dans la Tamise et dans le Rhin. Donc il faut arrêter de dire que il n'y a pas d'industrie. Et les gars, ils n'ont toujours pas découvert l'exploitation du pétrole, etc. Après la dernière glaciation, elle se termine il y a 12 000 ans. C'est ce qu'on appelle le néolithique. Les premières populations, les premières tribus d'Anatolie descendent...
Et d'ailleurs, il y a un lien que tous les historiens établissent entre ce progrès considérable qu'est le néolithique et le réchauffement.
On y va maintenant. Réchauffement. Donc, nos humains, nos ancêtres sont là. Réchauffement monstrueux il y a 6 millions d'années. Il y a 6 000 ans, je passe les détails. Il y a 4200 ans, je m'arrête sur quelques faits parce que je pourrais développer dans le détail tout ça. Il y a 4200 ans, la sécheresse et la chaleur est tellement forte que la civilisation d'Akkad, qui était l'héritière de Sumer, qui a inventé l'écriture, est complètement détruite. La sixième dynastie égyptienne est complètement détruite. La civilisation de l'Indus est complètement détruite. La civilisation de Langzhou en Chine est complètement détruite à cause du réchauffement. Ils ne connaissent pas l'exploitation du pétrole, du machin, ils n'ont pas de voiture, etc. Ils sont détruits. Je saute allègrement quelques siècles. Arrivons très près de nous. En 950, les Vikings, il y a un réchauffement tellement plus fort qu'aujourd'hui que les Vikings installent deux colonies au Groenland. Et qu'on fait des vignes dans le nord de l'Europe. Donc si vous voulez, et bien sûr, comme Gaïa, variée et bien folle qui s'y fit, à la Renaissance, refroidissement énorme, les Vikings sont obligés de quitter le Groenland et il n'y a plus de vignes. Alors on me dit, oui, mais depuis la révolution industrielle, quand même, il y a quelque chose de monstrueux qui se passe. Je rappelle que les températures étaient quand même plus élevées qu'aujourd'hui.
Non, mais des Vikings, hein. Côté, je pense que ils auront aussi des questions à vous poser, des objections, mais l'idée c'est que nul ne conteste cette oscillation des températures à travers l'histoire, où seuls, effectivement, les ignares ou les obscurantistes ne savent pas tout ça. Les gens sérieux savent tout ça. Ces oscillations, on les connaît. Simplement, là, l'argument qui est présenté, c'est que c'est l'activité humaine qui a accéléré le phénomène.
Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'accélération, puisque concrètement, il fait moins chaud aujourd'hui qu'avant l'époque de la révolution industrielle.
Ah non, ça pourrait ne pas être incompatible. Si on est dans une phase où il n'y aurait pas un réchauffement normal assez important, l'activité humaine pourrait être.
Non, non, mais personne.
Moi, responsable d'un réchauffement.
Non, non, mais moi, je ne nie pas les effets de réchauffement, y compris de notre respiration, du fait qu'il y a plus d'humains qu'avant, du fait qu'on produit, etc. Je ne nie pas ça. Je dis simplement que ça ne conduit pas au cataclysme et à une planète qui brûle, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'elle aurait brûlé.
Oui, non, ça vous suit. Et de donc, la même façon, on vous suit en disant que la nature n'est pas
l'idéologie. Voilà. Moi, ce que je refuse, c'est l'idéologie. Je m'arrête simplement à partir de la révolution industrielle, puisque la révolution industrielle est la grande condamnée de tous ces obscurantistes. Or, la révolution actuelle, les obscurantistes, moi, j'ai vu les rapports du GIEC, etc., qui sont absolument incroyables. Il faut quand même les lire, à un moment donné, toutes les projections, etc. On se dit, mais comment est-ce que telle bêtise peuvent passer pour scientifiques.
On va s'arrêter là. Est-ce que la grande panique climatique est une sorte de grande peur irrationnelle? C'est votre thèse. Suspense, on y revient. Jean-Loup Bonnevie, Julie Brien, on aura beaucoup de questions à vous poser. C'est tout de suite après.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
De retour avec Yves Roucaute, avec Jean-Loup Bonnamy, avec Juliette Briens dans Politique sous influence. Est-ce que nous courons à l'apocalypse climatique, Yves Roucaute ?
Alors donc, reprenons un tout petit peu cette histoire. On va arriver à la clé un peu de toute la critique de cette armada de démagogues qui d'ailleurs déverse un terrorisme intellectuel monstrueux dans les médias, dans les universités et partout. C'est la révolution industrielle coupable de tuer la planète. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils nous balancent des graphes pas possibles en disant « Regardez, depuis la révolution industrielle, les températures ne cessent de monter. »
Et c'est faux.
Et c'est faux.
On est quand même sur un presque consensus scientifique. Comment vous expliquez ça?
Et ça, c'est faux. Et ça, tous les instituts de climatologie, comme Emmanuel, à un moment donné, le roi de la durée l'avait prouvé, tous les instituts de climatologie savent que après un début de réchauffement, au moment du début de la révolution industrielle, au début du 19e siècle, sur la première moitié du 19e siècle, il y a une montée du refroidissement important, avec une montée très, très, très grande des glaciers, notamment. Les glaciers augmentent énormément. Ça dure jusqu'à 1850. Donc, vous voyez, on est en pleine révolution industrielle. Ben non, les températures baissent. Depuis 1850, il y a en effet, et là c'est vrai, un réchauffement qui conduit à ce qu'on ait 15 degrés centigrades aujourd'hui. Avec d'ailleurs un inégal développement. Parce que si vous prenez l'hiver ou l'été, si vous prenez sur un jour ou une saison, par exemple, les deux derniers hivers ont été beaucoup plus froids, et même jusqu'à 10 degrés de moins, par exemple, dans l'hémisphère nord, notamment en Sibérie, qu'il y a 3 ans. Donc, si vous voulez, bon. Mais globalement, il y a réellement un réchauffement. Mais il n'y a rien de continuel, rien de linéaire. Et j'ajoute, pour terminer sur cette affaire de réchauffement seulement, si vous voulez, on peut parler du CO2, j'ajoute que sur le réchauffement, eh bien, nous sommes dans une période qu'on appelle l'Holocène, ce que justement les gamins devraient apprendre, parce que vous savez que quand même, il y a 42% des jeunes qui votent à l'ANUPS, qui votent pour l'ANUPS, il y a une dépression monstrueuse dans la jeunesse. La jeunesse est déprimée à cause de cette idéologie obscurantiste. Il faut savoir que donc, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire une période interglaciaire, et que la menace qui arrive, je suis désolé d'être aussi anti-obscurantiste, la menace qui est prouvée, c'est la glaciation qui va arriver, le petit âge glaciaire qui va arriver, parce qu'on n'y échappera pas. Nous sommes dans une période interglaciaire depuis 2,8 millions d'années. C'est des grandes glaciations et des petites périodes de réchauffement. Nous sommes dans une petite période de réchauffement qu'on appelle l'Holocène. Bref, aucune importance. Moi, je suis contre les pollutions. Je suis un vrai écologiste.
Mais la vraie écologie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous protégions l'humanité. Je l'ai déjà indiqué, mais je le rappelle. Écologie, ça vient de oikos en grec, qui veut dire la maison. La maison, ça n'a jamais été la planète. La maison, c'est au contraire ce qui nous permet de nous protéger de la planète. Du chaud, du froid, des vents, des attaques animales, etc. Ça sert à ça. C'est un artifice humain pour faire vivre l'humanité. La maison, c'est ce qui met l'humanité au centre. Et moi, je suis écologiste parce que je ne mets pas les modes de terre au centre de ma réflexion, mais l'humanité, son bien, seulement son bien. La planète, je pense que c'est, et là je suis d'accord aussi bien avec la Bible qu'avec les Lumières, qu'avec les scientifiques, la planète c'est un espace qu'il nous faut constamment essayer de dominer et il nous faut constamment essayer d'asservir ce qui s'y trouve. Je suis totalement d'accord avec la sagesse biblique, avec la guerre des grandes spiritualités, parce qu'on trouve ça aussi un peu chez Confucius. Je suis d'accord avec les sciences et l'histoire et le progrès. Sur le CO2, simplement un tout petit mot, parce que le CO2, on raconte beaucoup, beaucoup de dâneries. Le CO2 n'est pas exceptionnel. Le CO2, il les représente aujourd'hui, parce que alors, on vous compte, on vous dit il y a 415 ppm. Alors les gars, je dis, oh, 415, c'est beaucoup, ça. 415 millions, c'est beaucoup, en effet, pour un individu, mais 415 ppm, c'est 0,0045% dans l'air. Or, il faut savoir que depuis 460 millions d'années, là, avant l'arrivée des hominines, avant cette millionnaire, et même depuis la dernière glaciation, la moyenne de CO2 est 8 à 17 fois plus supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. 8 à 17 fois supérieure. Je rappelle aussi que...
Alors qu'il n'y a pas, évidemment, d'activité.
Et je rappelle aussi qu'en termes de santé, en dessous de 0,6-0,7%, on l'a fait d'expérience dans les sous-marins, etc., en dessous de 0,6-0,7% de CO2, eh bien, en réalité, il n'y a aucun danger pour la santé humaine. Et si le CO2 était le principal gaz à effet de serre, comme le prétendent les obscurantistes, ça se saurait. Le CO2 n'est le principal effet de gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau de 60 à 80%. Je rappelle que ces gaz à effet de serre ne sont pas quelque chose de diabolique. Au contraire, sans eux, nous mourrions tous, puisqu'ils nous protègent des rayons alpha et gamma du soleil, qui nous détruiraient sinon. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs de grandes périodes d'extermination du vivant sur Terre. Et aussi, il fait ce qu'on appelle une couverture chauffante, absolument, qui empêche précisément la glaciation. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je suis désolé, je suis un peu long, mais un dernier élément. La gentille planète, c'est pas que le climat, la température du matin que j'écoute à la météo, non. C'est aussi des tsunamis, c'est aussi des séismes monstrueux qui ont fait, par exemple, en Chine, il y a une trentaine d'années, 250 000 morts. C'est des inondations. Moi, j'étais...
Oui, mais on a affaire à un phénomène religieux, puisqu'on vous dit que précisément parce qu'on émet trop de CO2, on se prend des tsunamis dans la figure.
Moi, j'étais en 1974 au Bangladesh avec des amis médecins. Et il y a eu, à l'époque, plus de 500 000 morts par les inondations. Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Vous voyez, c'est pas un pays où on faisait des industries carbonées, etc. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Si vous prenez les tsunamis, j'ai du mal à croire que les voitures sont responsables des tsunamis. J'insiste pas. La nature, dans mon livre, je raconte tous ces problèmes-là. Cyclones.
Non, mais la nature n'est pas notre amie.
Cyclones, par exemple, on nous raconte qu'ils n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Évidemment, c'est faux. Les plus importants cyclones ont produit des dégâts de 100 000, 200 000, 1 million de morts. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je veux dire,
Un des problèmes, c'est l'amnésie aussi, finalement.
Le problème, je vous le dis, c'est que nous avons une vague obscurantiste monstrueuse.
Un tsunami obscurantiste.
Et monstrueuse. Et qui a profité, en fait, du vide spirituel, je crois. Après la chute du mur de Berlin, je pense que le camp du progrès, le camp de la liberté, le camp des sciences, qui croit en la croissance, en la société de consommation, ce camp-là a baissé sa garde.
En tout cas, il y a une parole très forte des évangiles, c'est l'homme ne vit pas que de pain, donc on a besoin de croyances. Donc là, pour le vide des croyances.
Et on a besoin de spiritualité. Et donc, on a développé.
L'idéologie, c'est faux fil.
Le culte d'une planète terre-mère généreuse qui a comblé, notamment dans la jeunesse.
Non, je crois que c'est très clair.
Et je pense que c'est profondément. Et ça a permis de recycler tous ces ex-marxistes, tous ces ex-ennemis de la croissance, tous ces ex-ennemis des sociétés libérales.
Au service de la matrie terrestre.
Le climat, c'est le cache-sexe de cette volonté de détruire, en fait, notre civilisation, notre vision du monde. J'entends. Et c'est pour ça, un seul mot, mon livre, c'est pas un livre de gauche, de droite, de centre, je n'ai rien à battre. Mon livre, c'est un livre qui essaie de rassembler toutes les forces du progrès, qui croit que la croissance amène la puissance, notamment des démocraties libérales.
Mais on aurait bien aimé quand même vous apporter la contradiction.
Mais quand
c'est un peu difficile, parce que vous êtes entendu
votre
passion.
Quand j'entends votre discours qui est passionnant, je ne peux m'empêcher de penser à cette formule de Malraux. Dans son roman La Voix royale, il évoque la folie des Blancs. Et quand je vous entends, j'entends oui toute cette arrogance de l'homme occidental. Vous parliez par exemple des croyances magico-religieuses qui reviennent, mais la plupart des gens qui avaient des croyances magico-religieuses, les aborigènes, les Indiens d'Amazonie, ils sont morts, écrasés sous les roues de votre char du progrès. Et,
c'est un autre débat.
Et donc, simplement... Vous dites qu'il
la
faut,
Chine et l'Inde démontrent que c'est
qu'il
faux.
Faut dominer.
C'est pas un modèle occidental,
vous dites
c'est un
qu'il
modèle
faut
universel.
Dominer la planète.
Stop, on s'arrête.
Et non, mais alors j'avais simplement cité le paléo-anthropologue avec Leroy Gourhan, spécialiste de la préhistoire, et il annonçait, puisque le problème de la planète que vous voulez dominer, c'est qu'elle est tout de même finie et que ses ressources sont finies, et bien qu'on arrivera à bientôt à la dernière poche de pétrole vidée pour cuire la dernière poignée d'herbe mangée avec la viande du dernier rat.
Vous serez
voilà où
obligé
vous ça, c'est
de
totalement
revenir,
faux, comme je le démontre dans mon livre.
Revenir.
L'énergie
merci
est infinie. Beaucoup.
Merci infiniment. Je rappelle votre ouvrage Obscurantisme Vert, édition du CERF. Vous avez gagné le droit tous les deux de revenir. Merci Jean-Louis Bonamy. Merci Juliette Briens. On va parler auto, vous voyez, on va pas être très très vert là, avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Comme toutes les semaines, très bon week-end à vous. Et peut-être d'ailleurs vont-ils parler de voitures vertes, je ne sais pas.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.